Bonjour à tous, bienvenue Salezel donc à cette table ronde sur les asiles psychiatriques et les lieux de réclusion dans la science-fiction, c'est-à-dire l'endroit où on nous enverra une fois qu'on aura fini la table ronde en question. Je vais vous présenter rapidement nos trois intervenants principaux. Alors, Natacha Vazdeir est agrégée de lettres modernes, docteur en littérature française, chercheur à l'université de Bordeaux. Elle a surtout écrit un remarquable essai qui s'appelle « Ces Français qui ont écrit demain », un essai sur la science-fiction française, francophone même, qui a eu le GPI il y a 2 ans. Et elle a collaboré, enfin co-dirigé deux numéros tout à fait exceptionnels d'une revue universitaire mais lisible qui s'appelle Eidolon, dont le dernier en date s'appelle « Les dieux cachés de la science-fiction francophone », qui est un ensemble d'articles sur divers sujets assez variés et qui sont, pour les gens qui sont amateurs un peu du domaine en question, tout à fait passionnants. Au bout, le petit, là, c'est Laurent Kessy, qui est écrivain pour les jeunes et pour les adultes, qui a écrit une demi-douzaine de bouquins maintenant, à peu près, qui a aussi pas mal scénarisé de BD, qui est traducteur, enfin qui essaye, qui a notamment traduit Ubik, le scénario de Philippe Cadix, ce qui nous ramène au thème de la table ronde, en quelque sorte. Laurent est aussi, enfin se prétend en tout cas musicien. Il a un très chouette blog et il a cofondé et co-dirigé la revue électronique Angle Mort, que je vous engage tous à lire. Et enfin, à côté de moi, l'espèce de docteur Freud, là, c'est Xavier Mauméjean, diplômé en sciences des religions, ça se voit pas, prof de philo, qui est une des valeurs sûres de l'imaginaire en France. Il mène sa barque depuis une petite quinzaine d'années maintenant, ce qui lui a permis de nous amener à Babylone, au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, dans l'Angleterre victorienne, à Conflans-Sainte-Honorine, oui, tout à fait. Et son dernier roman en date, c'est Kafka à Paris, qui lui vaut un certain succès d'estime dans la presse, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors justement, on va commencer par toi, Xavier. Tu as... sans parler de Kafka, qui évidemment a écrit La colonie pénitentiaire, tu as déjà mis en scène tout simplement un asile dans ton, enfin en quelque sorte un asile dans ton premier livre, puisque tu parlais de John Merrick, l'Elephant Man, qui donc était en quelque sorte interné, même si toi tu en as fait un personnage assez différent de l'Elephant Man dont on a le portrait par John Hurt dans le film, quoi.
Oui, ah, c'est vrai, oui. Bonjour, pour commencer, je n'y ai pas pensé, mais c'est vrai que, merci, mon premier roman parle d'un personnage interné, effectivement, interné dans un des établissements hospitaliers qui n'est pas à vertu psychiatrique, sauf une aile de l'hôpital de Londres où on a travaillé sur notamment l'aphasie, c'est vrai que j'ai oublié ça. Sur l'aphasie, en fait la maladie l'aphasie était découverte dans, mais surtout Londres, c'est le Bedlam Asylum qui à mon avis est le grand modèle de l'Arkham Asylum de Batman dont on parlera certainement tout à l'heure. Et j'ai beaucoup travaillé sur par la suite dans une série qui s'appelle Craven, le cycle de Craven sur le Bedlam Asylum. Et ce qui est fascinant, c'est que le Bedlam Asylum a connu des internes créatifs, des internés créatifs. Alors, bien sûr, il y a eu des malades de base, si j'ose dire, mais il y a eu des personnages extrêmement fascinants qui font que l'architecture du Bedlam Asylum, plus les criminels extrêmement dangereux et qui étaient des artistes qui étaient enfermés au Bedlam Asylum, on crée une espèce d'imaginaire où la folie crée côtoie l'esthétique. Et par exemple, j'aimerais vous parler de sans trop monopoliser, mais de deux personnages qui me semblent intéressants parce que ça associe dans la vraie vie la création imaginaire et la maladie de l'internement.
Richard Dadd.
Bien sûr, Richard Dadd, qui est mon deuxième personnage, qui égorge son père en prétendant être l'incarnation d'Osiris. et qui va peindre des toiles absolument remarquables une fois qu'il est interné, dont The Fairy Fell on Masterstroke, qui est un bijou de fantasy. Et puis juste avant lui, un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle James Tilly Matthews. Alors James Tilly Matthews avait été interné au Bedlam Asylum parce qu'il tentait de déjouer un complot contre l'homme politique William Pitt. Sauf que le complot, il l'avait inventé lui-même. Et donc il a été arrêté par précaution. Et une fois qu'il était enfermé au Bedlam Asylum, il a commencé à détailler le complot qui... Et c'est une magnifique architecture déraisonnable, puisqu'il suppose... Or, la table ronde, c'est pas de science-fiction. Hein. Il suppose qu'il y avait un gang qui s'appelait The Air Room, qui avait inventé une machine qui permettait d'envoyer des images par la circulation sanguine, de manière à rendre les Londoniens fous et leur faire attaquer William Pitt. Et ce qui est fascinant, c'est que dans... Bien sûr, je ne connais pas par cœur, mais le gang qui était donc totalement inventé par Matthews, qui était à l'origine de ça, s'appelait, on dirait du David Lynch. Donc les ennemis complètement imaginaires, c'était The Middleman, l'homme du milieu. Déjà, c'est un super nom de tueur, The Middleman. The Glove Woman, je ne sais pas si c'est la femme gant ou la femme au gant, je ne sais pas comment on traduirait. Sir Archie et le chef qui s'appelait tout simplement Bill. Et donc Matthews a été enfermé dans le Bedlam Asylum. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'administration du Bedlam Asylum a lancé un concours pour rénover le Bedlam Asylum, donc pour augmenter la sécurité. Et c'est James Tilly Matthews qui l'a emporté, alors qu'il était interné au Bedlam Asylum. Donc on a reconstruit la totalité du Bedlam Asylum selon les plans d'un des fous dangereux qui était dans le Bedlam. Et il a supervisé la reconstruction de l'asile, alors même que son pire ennemi dans la vie réelle, celui-ci, c'était l'apothicaire l'apothicaire du Bedlam, qui le dessinait, le photographiait continuellement. Et je trouve que, étonnamment, il n'y a rien d'écrit en imaginaire sur cela, ou rien de notable, quoi. Et je trouve qu'il y a un potentiel. Oui, voilà. Il y a un potentiel. Et alors, si on pouvait faire un truc à la Team Powers, où il y aurait dans le même roman Matthews et Richard Dadd juste après, parce qu'ils sont pratiquement contemporains. Voilà. Bon, j'en ai parlé longuement, mais j'avais envie de parler de Matthews.
Bon, il faut dire aussi que ça nous permet d'évoquer un des romans fondateurs du fantastique moderne, Dracula, dont une partie se passe dans un asile, puisque Renfield, le comparse principal de Dracula, est interné dans un asile. Et Dracula, en plus, est un roman intéressant parce que c'est le roman fondateur du mythe du vampire. C'est aussi un roman qui est fasciné par la technologie, ce qu'on oublie souvent. Parce que, par exemple, c'est un roman épistolaire. Une partie des journaux sont en fait des transcriptions de rouleaux de cire, ce que restitue très bien, d'ailleurs, l'adaptation de Coppola. Et tous les passages qui se situent dans l'asile, qui sont donc vus, en quelque sorte, par le prisme de Renfield lui-même, sont des moments un peu... Enfin, vraiment étrange, quoi, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans un roman qui est lui-même d'une grande bizarrerie, il y a des moments encore plus en porte-à-faux. Ce qui m'amène à évoquer en quelque sorte un des autres asiles importants de l'imaginaire contemporain, c'est les asiles de Gotham, disons, enfin l'asile de Gotham, le Asylum, quoi. Laurent, tu veux t'en charger pour l'instant ?
Oui, oui, oui. L'asile d'Arkham, c'est l'asile où sont enfermés tous les méchants et comme ils sont de tous les adversaires de Batman. Et comme ils sont tous fous, ils sont quasiment tous là. Il n'y a pas d'autre lieu de... Je crois pas, Xavier, si tu me contredis si je dis une bêtise, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre lieu où on enferme les super-héros à Gotham. Les super-méchants. L'asile de Gotham, c'est une... L'asile d'Arkham, c'est une création assez récente. Je crois que ça date des années 70. Il a été créé dans la BD dans les années 70. Et après, on a fait toute une histoire sur l'asile, notamment avec un récit assez fondateur de Grant Morrison et Dave McKean qui s'appelle Arkham Asylum, qui est l'histoire du fondateur du créateur de l'asile d'Arkham, qui avant était un hôpital psychiatrique dont s'occupait sa mère. Enfin, je vous laisse découvrir cette BD qui est assez magnifique et dont le pitch est que Batman a sa place, tout comme ses adversaires, à l'asile d'Arkham. Et peut-être que c'est sans lui, l'asile d'Arkham n'existerait pas. Enfin, il y a ce va-et-vient entre Batman, qui est aussi fou que les fous, et à la fin, on en vient à se demander si, sans Batman, est-ce qu'il y aurait tous ces fous enfermés là. Donc c'est une espèce de lieu central de... On se demande comment on écrivait Batman avant même, parce que c'était aussi un autre Batman. C'était un Batman plus détective, moins porté, moins psychologisant, on va dire. Donc c'est devenu un lieu hyper central de Gotham. Xavier, on parlait hier des lieux de Gotham, tu référençais les lieux de Gotham. Arkham doit revenir des milliers de fois dans tous les récits maintenant. Il est vraiment... il est passé dans l'imaginaire même au-delà de Batman. Et par contre, toi, tu peux peut-être nous parler de l'Arkham de Lovecraft mieux que moi.
Juste une chose. C'est le manoir Wayne maintenant.
Oui, oui. Juste une chose, justement, sur l'Arkham de Lovecraft, c'est que Lovecraft, son père est mort fou. Son père est mort, quand Lovecraft avait 3 ans, son père a été pris de crise de folie. Alors qu'il était représentant de commerce et il était en train de faire sa tournée, il a été pris une crise de folie et on l'a interné. Et en fait, il est mort 2 ans plus tard à l'asile. Donc Lovecraft, très jeune, a été marqué par la folie. Et évidemment, dans l'œuvre de Lovecraft, la folie joue un rôle absolument central. Et évidemment, le nom Arkham utilisé pour l'asile de Batman, enfin de Gotham, n'est absolument pas innocent. Alors ce que je me demande maintenant, parce que là, on a pour l'instant utilisé uniquement des références américaines. Donc, je crains qu'il n'y ait pas grand-chose en français. Mais justement, je me demandais, il y a Xavier, récemment, disons. Après, je ne vois pas bien, moi, personnellement. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des choses chez Jules Verne? Une fantaisie Dr. Ock, ce genre de choses?
Je pense qu'il doit y avoir... Bon, je n'ai pas fouillé avec une grande précision, mais les Français...
Pour l'instant, on n'a parlé que de l'asile. On va parler de la prison après. Voilà, la prison, il y a beaucoup plus de références.
Les Français, les auteurs français sont quand même des auteurs... Ça, c'est, je pense, une tradition en France. Sont des auteurs relativement rationnels. Et je crois que... Bon, rationnel et au moins dans les premières générations des auteurs de science-fiction. Et il faudra sans doute attendre... peut-être les années 60-70, pour que le thème de la folie, finalement, ou des asiles, commence à intégrer la science-fiction française. Alors, je ne vais pas revenir sur un auteur comme Michel Jury, mais c'est vrai quand même que l'action du temps incertain, hein, premier grand roman de Michel Jury en 1973,
oui, l'hôpital
se passe évidemment dans un hôpital Garin-Shankar, qui donc fait des expériences pour des voyages dans le temps, mais des voyages temporels qui se passe grâce à une prise de drogue qui s'appelle la chronolyse, et le voyage temporal donc se déroule dans la tête des gens. Et donc évidemment, ceux qui voyagent temporellement, ce sont des voyages psychiques, et bien sûr Michel Jury entrecroise complètement le thème de la folie, parce que c'est extrêmement déstabilisant. Alors moi, je crois qu'en littérature, je voulais juste revenir sur 2-3 références pour le public qui me semblent importantes, parce que quand j'ai vu ce thème-là, moi la première nouvelle qui m'est venue à l'idée, c'est une nouvelle de Valerio Evangelisti, donc auteur italien, qui s'appelle Paradis et qui se trouve dans l'anthologie menée par Robert Silverberg, qui, petit hommage en passant à notre invité, donc évidemment principal. Et donc dans Paradis, on découvre petit à petit que la planète Terre, en fait, ce n'est plus qu'un asile gigantesque, puisque tous les humains se classent eux-mêmes en maniaco-dépressifs, en psychopathe, etc., etc. Et on découvre en fait à la fin de la nouvelle que sur la Lune, il y aurait peut-être, des psychiatres qui traiteraient toute la population de la Terre en lançant de gigantesques décharges donc électriques. Mais en réalité, on ne le sait pas plus que ça. Et donc voilà, Terre transformée en asile psychiatrique. Donc déjà... Dans ce type de nouvelles, moi, je crois que ce qui est important, c'est les idées. Pourquoi utiliser le thème de la folie ou des asiles dans la science-fiction? Alors, la première chose, c'est qu'évidemment, on a un vacillement entre normalité et anormalité. Ça, c'est très clair. Ensuite, je trouve quand même que quand tu as cité Dracula, c'est intéressant pour plusieurs sites, pour plusieurs éléments. Le premier par rapport à la folie, c'est que la SF dans Dracula, bien c'est un mélange avec le fantastique. Enfin, c'est le fantastique qui est dominant. Et justement, le thème de la folie, eh bien, permet d'avoir un traitement peut-être plus SF, hein, évidemment, à la manière du 19e siècle.
Parce que c'est pareil, Dracula, c'est le triomphe de la raison sur le mal. Parce que le vampirisme a des règles.
Tout à fait.
Donc on peut tuer un vampire d'une certaine manière, etc. Donc il y a effectivement... C'est un roman vraiment d'une richesse... Absolu, quoi.
Tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, moi, j'ai pensé aussi, alors peut-être une référence qui est moins évidente, mais on a quand même le thème de l'asile psychiatrique dans le deuxième Terminator, le film, où Sarah Connor est internée. Et où là, finalement, pourquoi... Bon, elle est internée parce qu'évidemment, elle raconte l'apocalypse
parce que
et que personne
dit,
ne la croit.
Ce qu'elle dit paraît fou, alors qu'en fait, elle a raison.
Voilà, c'est ça. Et alors, du coup, je me suis posé la question par rapport à Dracula, par rapport à Terminator. Et la deuxième idée, je crois, qui est intéressante, peut-être, c'est simplement que dans les romans de science-fiction, le phénomène qui n'est pas... où les phénomènes qui ne sont pas compréhensibles finalement par le plus grand nombre eh bien, sont assimilés à la folie. Donc par exemple, les réalités parallèles, le voyage temporel. Je pourrais citer aussi La Jetée, par exemple, ou L'Armée des 12 singes, où le thème de la folie est omniprésent. Vous voyez. Mais là, en fait, ce sont des références quand même contemporaines. Et je crois que l'idée, c'est que justement, ce thème de la folie est un thème qui est assez récent et assez contemporain.
De toute façon, la science-fiction se veut, dès le départ, une démarche positiviste. Toutes les racines... dans les années 30, avec John Campbell, etc., c'est la victoire de la science, de la raison, des lumières, en quelque sorte. Donc, effectivement, à ce niveau-là, le thème de la folie ne peut être que subséquent, enfin, ne peut être même qu'assujetti au triomphe de la raison.
Quand la science vacille,
voilà,
peut-être. Hein.
Tandis que, justement, à partir du moment où se développe, si on décèle qu'effectivement... Dans les années 60, parce qu'il y a par exemple un ou deux textes de Harlan Ellison qui peuvent être rattachés au thème, notamment Harlequin et l'homme tic-tac, etc., c'est le moment justement où apparaît l'antipsychiatrie aux États-Unis. Et je pense que, par exemple, quelqu'un comme Michel Jury était parfaitement au fait, rappelons qu'il a été visiteur médical, qu'il était parfaitement au fait de ce genre de choses.
Absolument.
Je peux intervenir ? A contrario, tu disais c'est très rationnel, très positiviste. C'est un peu le phénomène inverse dans les comics américains. Je parle que de BD américaines, de super-héros, où là tout est folie, quoi. Enfin, on est dans un monde plutôt enfantin avec des costumes bigarrés. On lit les aventures de Superman dans les années 50-60. Il n'y a pas un truc rationnel. Il y a des mondes parallèles tout le temps. Il y a Crypto, il y a le chien de Superman, il y a le cheval de Superman, il y a toute la famille Superman. Enfin, on est dans un état de folie permanent. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou, quoi. Tout est fou. Et chez Batman est fou, mais fou dangereux, quoi. Lui, c'est un fou dangereux. Ses adversaires sont complètement fous. Enfin, on est complètement dans l'inverse de cette espèce de rationalisme qu'il y a dans la littérature de SF.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les comics, essentiellement américains, apparaissent à partir du moment... C'est très bien décrit dans Les aventures de Cavalier Huntley, par exemple, le roman de Michael Chabon. Les comics apparaissent en quelque sorte en réaction à la montée du nazisme en Europe et à la Seconde Guerre mondiale. C'est à peu près concomitant. Donc, en quelque sorte, ce sont des réactions à une folie existante, meurtrière. Et justement, il y a une espèce de folie innocente ou même bénéfique, bénévolente, bienveillante, pardon, dans les comics américains, qui peut être une espèce de relecture positive, justement, d'un phénomène
Exactement,
qui est d'une noirceur absolue. Quoi,
on n'aime pas la boxe, alors on va faire du catch. Quoi. C'est
exactement.
Ça.
Voilà, exactement.
Alors, d'un côté, je ne sais pas si la séparation en SF entre raison et folie, elle est toujours aussi marquée, ou si c'est entre raison et irrationnel. Parce que la raison, par exemple, dans l'épisode que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi l'asile d'Arkham ou l'armée des douze singes, cette expérience qui semble complètement folle d'envoyer un homme dans le passé. La raison s'accommode très bien de la folie. C'est-à-dire que, par exemple, Renfield, tu évoquais Dracula, est un moyen rationnel de la part de Dracula d'arriver à ses propres fins. Donc la raison compose assez facilement avec la folie. Et par exemple, à l'époque de la Renaissance, où la frontière entre raison et imagination, entre science et art était beaucoup moins ferme, beaucoup moins séparée, il y avait par exemple des techniques de ce qu'on appelait l'architecture de la mémoire, qui consistait à se représenter des souvenirs d'un point de vue spatial. Donc le souvenir, c'est par définition lié au temps, de les raccrocher à des éléments spatiaux dans la mémoire. Par exemple, vous fabriquiez une maison mentale, et en évoluant à travers les corridors de la maison, du palais, vous pouviez vous souvenir d'éléments. Donc c'est une sorte de mélange entre raison et imagination. Mais plus intéressant encore, une petite chose, c'est le projet qu'avait lancé l'architecte Alberti, qui était l'architecture des coïncidences, qui consistait à mettre des fous dans des maisons dont chaque sculpture, chaque degré, chaque élément était composé pour leur provoquer des réactions, des associations d'idées qui devaient les mener pas aux soins, parce que à la Renaissance on s'en cogne de soigner, mais à des activités créatrices. Et ce qui est assez fascinant, c'est que justement là, la raison est extrêmement structurée, organisée et tout, pour un projet complètement barré, qui est de soigner les gens par les coïncidences architecturales.
Ton allusion au palais de la mémoire, en quelque sorte, m'amuse, parce que je viens de visionner les différentes saisons de la dernière adaptation Hannibal, la série Hannibal, où effectivement, non, je n'en dis pas trop, mais le personnage principal, Hannibal Lecter, utilise justement à plaisir ces techniques pour justement consigner tout ce dont il a besoin de se rappeler, etc. Et justement, un des ressorts dramatiques de la série, sans trop en dire, c'est que l'enquêteur qui est son antagoniste, en quelque sorte, est censé découvrir les mêmes techniques pour arriver à, en quelque sorte, le contrer.
Chez Hannibal, la raison et la folie sont parfaitement équilibrées.
Oui, non, mais il est parfaitement raisonnable, Hannibal. Enfin, voyons. Ensuite, pour revenir à... Tu parlais tout à l'heure de Valerio Evangelisti. Incidemment, tous ceux qui ont rencontré physiquement Valerio Evangelisti ne peuvent pas douter qu'il est quand même très, très bizarre, outre le fait qu'il fait 2 mètres et qu'il ressemble réellement à un inquisiteur du Moyen-Âge.
Il y a une incarnation avec son personnage.
Tout à fait, oui. Mais ça me fait penser aussi cette histoire de planète, effectivement, entièrement colonisée par la folie, en quelque sorte, à un des romans justement les plus proches de ce thème, qui est un roman de Philip K. Dick, auteur familier des territoires de la folie, puisque Les Clans de la Lune Alphane décrit un planétoïde où tous les habitants sont classés selon leur typologie, enfin leur pathologie, voilà. Et donc effectivement, il y a les schizoïdes, etc., etc. Et donc il faut bien savoir que, d'une part, Dick a toujours eu un rapport conflictuel avec la raison, ou en tout cas l'équilibre mental, puisque il s'automédiquait, il a suivi plusieurs psychiatries, il a fait interner sa deux ou troisième femme parce qu'il était persuadé qu'elle voulait le tuer, etc. Anne.
Et lui-même est allé dans un autre lieu de réclusion, c'est un centre de désintoxication. Ça, je ne sais pas si c'est très utilisé en littérature, mais en
au
tout
Canada,
cas,
oui.
C'est un truc qu'il a marqué et qu'il a utilisé dans Scanner Darkly. Quoi,
ouais. Oui, dans Substance Mort. Ouais. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur la folie. Sur les lieux
je voulais rajouter une idée quand même, parce que là aussi, toujours en réfléchissant sur pourquoi cette utilisation de la folie, il y a quelque chose quand même qui m'a frappée en visionnant de nouveau L'Antre de la folie de John Carpenter de 1994, hein. Et en pensant aussi quand même à Shining de Kubrick, et puis bien sûr de le roman initial de Stephen King, c'est qu'en fait, aussi bien dans L'Antre de la folie que dans Shining, c'est l'écriture qui est à l'origine de la folie. Et ça, c'est intéressant comme thème, et ça, évidemment, ça nous ramène aussi à Philippe K. Dick, c'est-à-dire ce rapport très pernicieux qu'il existe entre le fait d'écrire et peut-être le fait de basculer dans la folie. Parce que dans L'Antre de la folie, c'est l'écrivain qui crée le monde démoniaque et le monde de la folie dans lequel va basculer donc son éditeur qui est joué par Sam Neill. Donc ça c'est aussi une idée importante. Bon, là on est peut-être à la limite de la science-fiction, évidemment, avec Shining, et puis on est plus dans le fantastique que dans la science-fiction, mais ça, je trouvais que c'était une idée quand même assez importante, hein, une idée phare de ce lien entre l'écriture et la folie. Voilà.
Tout à fait. Pour ce qui est du versant plus carcéral de la chose, disons, on a déjà dans la science-fiction une palette beaucoup plus large de lieux de réclusion, de séclusion, etc. D'une part, on a par exemple la prison en science-fiction peut être un lieu, une vraie prison, d'où il faut s'échapper. C'est peut-être une prison extrêmement technologique. Un certain nombre de films récents, y compris une production Luc Besson qui vient de se prendre une condamnation pour plagiat de la part de John Carpenter, justement. Il a trouvé que... Oui, il a quand même trouvé que ça ressemblait un peu trop à New York 1997, qui est en plein dans le thème, puisque là, New York 1997, d'abord, c'est un film de science-fiction, puisque le film, en fait, date de 15 ans avant, par rapport à la date qui, pour nous, est dans le passé. Et d'autre part, effectivement, New York est devenu une prison. On a aussi... un certain nombre, enfin l'extrême inverse, c'est la planète qui est une prison. On a l'exemple ultime, probablement, c'est chez Cordwainer Smith, la planète Chaïol, qui est une prison. Il y a un certain nombre de colonies pénitentiaires dont on peut imaginer qu'elles sont plus ou moins dérivées de la situation australienne qui marque l'imaginaire anglo-saxon, parce qu'en gros, on a pris un continent ou un sous-continent et on a fait une prison. Et ces gens, après, ont pris le pouvoir, ils sont devenus en quelque sorte les habitants ou leurs descendants le sont devenus. Hein ? Ils sont devenus surfeurs aussi. Et de la chair à requin. Et on a, par exemple, dans ce genre de même perspective, Heinlein, Révolte sur la Lune, où la Lune, effectivement, est une ancienne colonie pénitentiaire, où on a essentiellement exilé tous les maladaptés politiques de la Terre, et évidemment c'était une très mauvaise idée, puisqu'ils se sont réunis, ils ont mis leurs forces en commun, et ils ont lancé une révolution. D'autre part, s'il y a quelque chose qui a marqué durablement, et toi tu as travaillé sur un auteur qui est mort en camp de concentration, qui a marqué durablement la science-fiction, c'est le phénomène concentrationnaire, de la Seconde Guerre mondiale notamment, qui est l'horreur absolue, évidemment, et qui a en quelque sorte, je précise que tu as travaillé sur Régis Messac, qui est un grand auteur de science-fiction de Bordeaux, qui est mort en déportation, tout simplement, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était très difficile, à nouveau, pour la science-fiction, d'ignorer que la prison n'était pas simplement un lieu où on mettait des criminels. La prison, ça peut aussi être un lieu de pur arbitraire.
Oui, un lieu concentrationnaire. Absolument. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Oui, alors pour reprendre et pour parler de Régis Messac, je crois que le roman, sans doute, qui a été récemment réédité, qui va le mieux évoquer un univers d'enfermement, c'est La Cité des Asphyxiés. Alors, ce n'est pas une prison du tout. On est plus dans le phénomène de ce qu'on appelle la terre creuse, dans l'ancienne anticipation, hein, l'anticipation de l'entre-deux-guerres et même de la fin du XIXe siècle, où là, nous sommes évidemment sur la Terre, mais les hommes ne vivent absolument plus à la surface de la Terre, mais sous la Terre. Et donc, il y a un système commercial qui s'est substitué, on va dire, à celui de la distribution de l'alimentation ou de la vente de l'alimentation par rapport au monde normal. C'est que là, il faut, cité des asphyxiés, il faut acheter son air pour pouvoir survivre. Et donc, il faut travailler pour acheter de l'air. Et donc, évidemment, c'est un monde qui est un monde inégalitaire. Hein, c'est une sorte de dystopie ou de contre-utopie. Et Régis Messac avait... Alors, malheureusement, je pense qu'il... Enfin, il ne pensait pas du tout, évidemment, au camp de concentration, mais il y a plusieurs images, quand même, qui vont revenir dans sa littérature à un moment donné où il participer en quelque sorte ces univers qui sont des univers vraiment fermés, des univers de torture aussi bien mentale que physique. Voilà. Et ça, je crois que c'est une image qui est relativement forte quand même. Et puis moi, je crois à l'univers de la prison, la science-fiction génère, je pense à par exemple deux films qui sont Alien 3 de David Fincher, hein, et David Fincher est là aussi un réalisateur, un cinéaste qui est proche à mon avis de ce thème-là.
Oui,
dans Alien 3 on a une esthétique de la prison.
Ripley tombe prison. Elle tombe sur une planète prison, effectivement.
Voilà, elle tombe sur une planète prison. Et puis je pensais aussi à un roman, alors là je reviens au contemporain, mais un roman qui s'appelle Absalon, roman de Pierre Bordage, où toute la première partie du roman se passe dans une prison, et on est là aussi dans une sorte de modèle contre-utopique. Donc la prison, lieu de réclusion aussi, le sens des lieux de réclusion dans la science-fiction, pour moi ce sont vraiment des univers totalement contre-utopiques et cauchemardesques bien sûr.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que la science-fiction permet un ensemble très vaste et une palette très variée de prisons. Alors on a parlé de planètes. Il y a aussi, par exemple, dans un roman assez récent, Jack Glass, d'un écrivain anglais qui s'appelle Adam Roberts, un excellent roman qui est passé très inaperçu. Les prisonniers sont amenés sur des astéroïdes et sont censés creuser leur propre prison, l'aménager, créer leur propre oxygène, sachant qu'une fois qu'ils auront terminé, ce sera récupéré à vil prix par des promoteurs d'habitats spatiaux et on les amènera sur un autre astéroïde. C'est une métaphore assez transparente du capitalisme moderne, mais qui marche, ma foi, fort bien. De la même manière, dans l'œuvre d'Alfred Bester, Terminus et les étoiles, qui est en soi un hommage au comte de Monte Cristo, il y a tout un long passage qui se passe dans un lieu qu'on appelle le gouffre Martel, qui est en fait une prison aveugle où il règne le noir absolu et dont le héros doit s'évader en utilisant là encore une méthode qui est elle-même un hommage au comte de Monte Cristo, quoi. Il y a pour revenir aux planètes prison, il y a un roman extrêmement satirique et très drôle de Robert Sheckley qui s'appelle Omega, qui n'est plus disponible, où les criminels qui sont envoyés sur une planète prison, les plus efficaces et les plus cruels, prennent évidemment le pouvoir, ce qui n'a absolument rien à voir avec la situation qu'on peut vivre par exemple sur la planète Terre, comme chacun sait, etc. Il y a donc effectivement tout un ensemble de possibilités à la fois satirique et en même temps dystopique, enfin à titre d'avertissement, sur la façon dont on peut utiliser la prison dans la science-fiction comme une espèce de miroir déformant de notre société et pas seulement simplement comme un endroit où on enferme les gens. Bien entendu, c'est là que ça devient très intéressant.
C'est pour ça qu'on a parlé de dystopie.
Il y a aussi, pour revenir à prison, fermement et folie, le grand retour de la folie, il y a aussi la folie chez soi, et il y a par exemple dans son essai Anatomie de l'horreur une analyse de Stephen King de Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui est vraiment bluffante, où Stephen King dont Galaxy vient de consacrer un numéro spécial, c'est ça
Galaxy.
Oui. Certains. Stephen King, donc, analyse. Bon, donc, Dr. Jekyll, c'est la science-fiction, puisque la division entre les personnalités est obtenue par des moyens scientifiques. Et bien que l'approche soit biologique, il s'agit de la psyché. Et Stephen King, comme il fait souvent, en faisant semblant d'être le plouc du coin qui va vous dire une bonne vérité, alors que son esprit est très fin, très aiguisé, Stephen King dit la chose suivante. Si vous prenez Dr. Jekyll, tout est dit dans la maison du Dr. Jekyll. Parce que les trois parties de la maison correspondre à conscient, préconscient, inconscient. Ou, pour parler avec King, au lieu de l'inconscient, le ça, it. Le conscient, c'est la face publique, c'est l'entrée. Et c'est vrai que tout ce qui se passe côté façade de la maison de Jekyll, c'est bien, il y a les patients, la police, la raison qui arrive, ils passent par l'entrée, etc. Quand ça sort par l'entrée, c'est le docteur Jekyll, c'est la partie visible, c'est Jekyll. À l'intérieur, le préconscient, bah, ça dépend de quelle est la partie de Jekyll qui va l'emporter sur l'autre, ça alterne, etc. Et King fait remarquer, c'est vraiment balèze, il dit, dans ce récit, Mr. Hyde, il sort toujours par l'entrée de service, par l'entrée des domestiques, c'est-à-dire par l'arrière, ce qui est l'inconscient. Et là, en deux paragraphes, King montre à la fois la science, la raison triomphante et en même temps malade qui cherche des choses qui sont hors de sa portée, l'architecture, la maison de Jekyll, c'est la tête de Jekyll, et la folie structurée, et là, une fois de plus, il nous bluffe. C'était fiction alors, je me suis trompé.
Oui, en parlant de Stephen King et de lieux de réclusion, pour être dans l'actualité tout à la fois télévisuelle et littéraire, un lieu de réclusion, c'est quand même le Dôme. Dans un des derniers romans de Stephen King, qui vient d'être très très mal adapté dans une série, c'est complètement, voilà, je pense, un univers, un micro-univers prison, qui se situe bien dans l'univers de la science-fiction et pas du fantastique, eh bien, c'est Under the Dome, tout à fait.
Et l'île de Lost est aussi un lieu de réclusion.
Absolument.
Il y a aussi dans le genre, il y a un roman que j'ai traduit, d'ailleurs Mysterium de Robert Charles Wilson, où le même principe que Dôme, c'est-à-dire une espèce de bulle de force apparaît, englobe une ville qui est par la suite transférée dans un univers parallèle, où elle se retrouve d'ailleurs face à un univers carcéral, absolument, absolument, etc., gouverné par la gnose dans une espèce de version du christianisme, dans ce cas précis, beaucoup moins sympathique que celle qu'on a eue par chez nous, quoi. Donc, effectivement, on a toujours cette utilisation du lieu d'enfermement comme un lieu, en quelque sorte, qui permet de se retrouver face à soi et de se retrouver face à la société, face à ce qu'elle peut avoir, effectivement, de plus oppressant, en quelque sorte.
Et face aux pulsions meurtrières de toutes sortes, comme vous avez dans Under the Dome, par exemple.
Il y a une autre ville en bouteille célèbre, j'en reviens aux comics, je parle que de ça.
Mais c'est pas
grave. La ville de Kandor, qui est une ville kryptonienne rétrécie et mise en bouteille, et qui met Superman face à ses ancêtres, face à sa vraie planète, et qui est une façon pour lui de voir la vie qu'il aurait pu mener, qui est une espèce de reflet de la planète manquante, quoi.
Et du coup, on pourrait parler, puisqu'on vient d'avoir pour faire référence à une série vraiment très très récente, on vient d'avoir le pilote de Supergirl, où apparaît notamment la zone fantôme, qui est en quelque sorte la prison ultime de l'univers de Superman, enfin de son univers de naissance, en tout
cas. Et qui nous pose des questions, parce que alors la zone fantôme, c'est une zone, alors on la voit dans le Superman de Richard Donner de 78, on voit une espèce de rectangle et on voit des visages dedans, il y a le général Zod qui est enfermé. Et cette prison nous pose question parce que c'est un lieu affreux, c'est un lieu où on est dépersonnalisé, déshumanisé, le temps s'est arrêté, on y est enfermé a priori pour l'éternité, c'est pas la peine à vie, c'est pour l'éternité, c'est une espèce de punition hyper perverse, quoi. Et on se dit, les mecs qui ont inventé ça, c'est une société sans doute affreuse. Et par écho, on peut imaginer que Krypton est probablement une planète pas si évoluée que ça. Enfin, si on réfléchit aux civilisations par rapport à la façon dont elles traitent leurs prisonniers, Krypton est une civilisation horrible, quoi. Voilà. Et ça peut poser question. Et certains auteurs arrivent à traiter de ça. Bon, les origines de Krypton changent assez souvent, hein, chaque fois qu'un pont de la Warner dit « Bon, les gars, il faudrait relancer ». Donc, tout ça est très fluctuant, mais ça, c'est hyper intéressant de mettre en regard les lieux d'emprisonnement, mais les asiles aussi, d'ailleurs. Hein, et par rapport à la société, ce qu'on fait de nos... mais ça peut s'étendre à ce qu'on fait de nos vieux, ce qu'on fait de nos... Enfin, le traitement de la folie pour la société est un vrai révélateur.
Et ce qui est intéressant aussi, parce que je pense à la phrase de Rorschach quand il est enfermé dans les Watchmen, dans la prison de haute sécurité, où il dit « c'est pas moi qui suis enfermé avec vous, c'est vous qui êtes enfermé avec moi ». Et il y a aussi l'idée de l'intérieur et de l'extérieur. Et par exemple, dans Arkham, il est souvent dit par les aliénés d'Arkham qu'ils sont plus fous à l'extérieur. D'ailleurs, le Joker dans l'Arkham Asylum de Morrison invite Batman à le rejoindre parce que c'est chez lui, lui dit-on. Et d'ailleurs, ils ont passé le cap il n'y a pas si longtemps, puisque Arkham Asylum a été détruit et c'est le Wayne Manor maintenant qui est devenu la prison de Gotham City. Mais je voulais dire que justement, de tout ce qu'on a vu, et notamment les beaux exemples de science-fiction sur qui enferme quoi, parfois la folie est enfermée à l'intérieur, mais parfois l'enfermement permet de se protéger de la folie. Par exemple, une société qui serait abominable dans ses, comme Krypton dans ses traitements. Et là, par exemple, il y a le dernier Daryl Gregory, Nous allons tous très bien, merci, c'est ça le titre, où justement, qui est un petit bijou, je vous le conseille, on a l'impression de lire l'équivalent de ce qu'était un des premiers films de John Carpenter. On est vraiment pris, c'est aussi rapide et nerveux et brillant que un des premiers films de John Carpenter, et où on voit là que une thérapie qui rassemble des gens qui ont été meurtris, blessés physiquement, mentalement, par des on ne sait pas quoi, je vous laisse deviner, bah, justement l'enfermement, ou en tout cas de se retrouver dans un milieu clinique, ça permet de se protéger ou d'oublier au moins le temps de la séance, ce qui se trouve dehors en fait.
Excuse-moi, si on peut inverser carrément et aller à l'autre bout du truc, toutes les séries, les BD, les bouquins autour des zombies en ce moment, les humains passent d'un lieu de réclusion à un autre. Dans Walking Dead, c'est ça. On passe d'une prison, d'ailleurs, ils passent longtemps dans une prison, à une ville qui n'est pas en bouteille, mais qui est protégée par des murs. Enfin, on passe d'un lieu de réclusion à un autre.
Dans une zone protégée.
Mais de toute façon, c'est le principe du zombie. C'est, les humains sont devenus la minorité.
D'ailleurs, ça permettrait effectivement d'enchaîner sur le fait qu'il y a des réclusions volontaires. Par exemple, un monastère est un lieu de réclusion volontaire. Il y a aussi une tradition dans la science-fiction, de Un cantique pour Leibovitz à certains romans de Clifford Simak, etc., etc., où des gens se retirent du monde et s'enferment pour des raisons X ou Y, y compris pour échapper à une catastrophe planétaire, y compris pour échapper à une apocalypse, ou alors, tout simplement, pour développer du savoir. Il faut rappeler qu'un des lieux de conservation du savoir pendant la période sombre, pendant le Moyen-Âge, ça a été les monastères. Effectivement, leur isolement a contribué à ce qu'une partie du savoir de l'Empire romain, par exemple, perdure jusqu'à la Renaissance. Et on retrouve cette idée, par exemple, chez un auteur comme aussi moderne que dans le roman Anaheim de... Ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Hein ? Oui, voilà. Et Denis Stephenson, où il y a effectivement cette idée-là. Et on a aussi, par exemple, des exemples similaires chez des gens aussi divers que Ursula Le Guin, où il y a une école de magie qui est ouverte sur le monde, mais en même temps, il faut passer l'épreuve du portier. Et il faut mériter d'être admis dans l'école. Donc on a effectivement... c'est la face en quelque sorte claire du côté sombre de la prison, le lieu secret. Il y avait d'ailleurs un très beau recueil de Lafferty qui s'appelait Lieu secret et vilain messieur qui jouait aussi sur ce genre de thématique. Oui, Poudlard est un excellent exemple.
Les internats sont aussi des lieux de réclusion quelque part. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'exemples, mais un internat de garçons, il y a pas mal de...
À part les Bennett que je lisais quand j'étais petit en bibliothèque verte.
Non, mais il y a eu une série télé comme ça récemment, dont j'ai oublié le nom évidemment, mais qui se passait dans un internat et où les personnages ados se découvraient des super pouvoirs et voilà, un grand mystère. Mais voilà, c'est aussi des réservoirs à mystère, ces trucs. C'est pareil avec Under the Dome, où on est enfermé dans un lieu. Comment en sortir? Le labyrinthe, là, le film récent. Enfin, tous ces lieux sont des... au-delà du côté psychologisant et du côté regard sur le monde, ce sont des lieux d'intrigue pure, assez des casse-têtes, quoi. Voilà.
Ce sont des huis clos, d'un voilà, point oui, de vue. Oui, oui.
Mais même sans meurtre, il n'y a pas forcément des meurtres. Et c'est quand même
absolument.
Alors on va rappeler enfin, dans le genre aussi, la prison n'est pas forcément un lieu, la prison peut être une époque. Nous avons parmi les invités du festival un très grand auteur américain qui s'appelle Robert Silverberg. Silverberg a imaginé par exemple qu'on pourrait qu'on pourrait exiler notamment les opposants politiques au Cambrien, c'est-à-dire en pleine préhistoire. Comme ça, au moins, on n'a plus à s'en occuper. Il y a comme ça toute une richesse du thème dans ces diverses acceptions qui est permise justement, tout simplement, par la richesse des possibilités qu'offre la science-fiction. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y aurait des questions parmi vous? Peut-être un aspect qu'on n'aurait pas abordé?
Je vois là-bas.
Bon, j'ai le micro, j'ai le pouvoir, comme on dit. Sur le thème, je veux dire, de la réclusion, on a parlé de la santé mentale. Et donc surtout, ce qui m'a interpellé, c'est le thème finalement de la planète prison, finalement du lieu ouvert prison, et justement des... Il y a des lieux ouverts prison comme des îles où les prisonniers sont en liberté, un peu comme le...
En Scandinavie, par exemple.
Voilà, comme en Scandinavie. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, l'Australie, c'est un peu ça, même s'il y a l'éloignement. En Scandinavie, ils sont assez proches et ils sont libres quand même.
En plus, on cite l'Australie à chaque fois, mais la Nouvelle-Calédonie, enfin...
Oui, non, mais là, c'est parce qu'Australie,
Dans la sphère française, a été peuplée de la même manière, en gros.
Oui, on est d'accord.
Colonisée de la même manière.
Oui. Donc, là où je voulais en venir, c'était finalement inverser le phénomène. Et au lieu de dire on enferme les gens dans un lieu particulier, finalement, c'est-à-dire que la société ou le monde dans lequel on vit est un lieu où on soigne la maladie mentale. Et c'est vrai que c'est... Quand je lis les moutons électriques, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? C'est un peu ce domaine-là. Je veux dire, les gens qui se soignent tous les jours, qui vont choisir leur psychologie.
Avec leur petite boîte noire.
Voilà, avec leur petite boîte noire. Et récemment, donc là, je veux dire, dans les dernières années, qui viennent du monde nippon, j'ai lu récemment de Project Ito le roman qui s'appelle Harmonie, Projet Harmonie, ou aussi ce qui est assez inspiré, la série animée Psychopass, qui est totalement lié à ça, je veux dire, aux gens qu'on éduque, qu'on dit qu'ils sont malades et qu'on doit soigner, donc comme si le monde entier était un asile et qu'il fallait être sain parce qu'au finalement, tout le monde risque d'être malade et c'est la psychose continuelle et c'est un peu le danger vers lequel on est actuellement.
Ce qui m'évoque d'ailleurs un roman de John Brunner que j'ai oublié d'évoquer, qui s'appelait La planète folie, qui est un peu sur le même thème, effectivement.
Aussi de Edmund Cooper,
Le jour des fous,
où suite à on ne sait pas trop quoi, disons les taches solaires, meurt, c'est à peu près ce qui est avancé, meurt tout ce qui est normal, quelle que soit l'acception, il ne reste que les malades mentaux.
Il m'a semblé, oui. Bonjour. Je voudrais revenir sur la folie. N'y a-t-il pas une sorte de fantasme dont s'emparent les auteurs entre la folie et le génie créateur? On peut penser à un homme d'exception avec Russell Crowe, mais en fait c'est un thème qui peut prendre ses racines dès le 19e siècle. Et ma question c'est, est-ce que ça n'est pas un fantasme? On peut voir par exemple les œuvres de Gérard de Nerval, Robert Schumann. Au moment où ils sont devenus fous, ils ont cessé d'être de vrais grands créateurs pour juste devenir des fous. Est-ce que c'est pas un fantasme en fait, ce rapport entre folie et l'esprit créateur et génie créateur, voilà.
Fantasme, c'est-à-dire que l'idée que vous émettez là derrière, ce serait que en fait le génie serait obligatoirement lié à la folie, c'est ça peut-être, l'écriture. Oui. C'est pour ça que tout à l'heure là les références par rapport à l'antre de la folie sont... Bon, c'est traité sur le mode Carpenter, donc il y a le mode horrifique un petit peu, le film a un peu vieilli, mais l'idée était quand même tout à fait intéressante, et ce qu'on retrouve aussi dans Shining, parce que là, on voit bien le lien entre c'est l'acte créateur de l'écriture qui va faire basculer finalement dans la folie donc le personnage. Mais est-ce que la folie finalement ne nourrit pas... Vous avez parfaitement raison en parlant de Nerval, parce que Nerval lui-même disait que sa folie le nourrissait, mais jusqu'à quel point? Vous voyez, on aurait pu aussi faire la même remarque pour l'art pictural avec les peintres. On peut évoquer des gens, par exemple, comme Van Gogh. Van Gogh est allé aux limites de sa folie pour pouvoir peindre ses plus beaux tableaux. Et juste après, il n'a plus supporté sa folie et il s'est suicidé. Voyez. Donc ça, c'est un thème, à mon avis, qui est totalement... Vous avez parfaitement raison de le signaler. C'est un thème qui est essentiel par rapport au génie créatif, qu'il soit littéraire ou pictural, voire même peut-être, je dirais, même pour un cinéaste. Hein. Je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête là tout de suite, mais je crois que dans le cinéma, on va retrouver aussi cette, évidemment cette thématique-là, très très importante, tout à fait.
Alors, par contre, l'inverse se tient aussi. Vous avez John Gardner, qui est le formidable auteur de Grendel, entre autres, qui a écrit un essai très court et splendide qui s'appelle Art and Insanity et qui montre que ce qui différencie fondamentalement le malade du créateur, c'est la création précisément. C'est-à-dire que le cheminement peut sembler pour quantité de raisons similaires, mais il n'empêche que le malade produit, mais produit à destination intime, personnelle, et quelque chose qui n'est pas littéralement matériel, tandis que l'artiste, lui, produit une œuvre. Et donc, il y a une ressemblance formelle, mais une extrême différence de fond.
Je pense que nous avons fait le tour. Oui,
excusez-moi, juste parce que depuis le début, on parle de la folie. On a oublié quand même un personnage majeur dans la question de la folie. Parce qu'avant, on parlait de folie. Aujourd'hui, on parle de maladie mentale. C'est-à-dire qu'il y a un médecin à un endroit qui est là, qui va juger, qui va garder tous ces malades dans ce lieu de réclusion, qui est un endroit qui est censé traiter les patients pour les rendre à nouveau normaux.
Et on... en insistant beaucoup sur le sensé. Hein.
Voilà. Parce que, bon, il y a Freud, on peut se poser la question quand on lit sa vie, mais il y a le directeur de l'asile d'Arkham, qui est loin d'être un saint, dans tous les sens du terme. Et on parlait de films. Il y a trois films juste que je veux citer pour reposer cette question sur la place du médecin traitant. C'est Saw, avec ce mec qui est fou et qui traite quelque part les gens. Il y a Cube, qui est un huis clos. Et plus proche de nous, il y a Shutter Island.
Oui, oui, ça voilà. J'avais pensé, oui.
Il y a un personnage.
C'est pas loin d'être fantastique, je te réveille.
Il y a un personnage dans Arkham qui est apparu dans Batman, qui est apparu dans le dessin animé, qui est Harley Quinn, qui est une psychiatre censée soigner le Joker et qui tombe amoureuse de lui et qui devient aussi folle que lui. Et voilà, quoi. Donc dans l'asile d'Arkham, même les médecins, ils sont perdus, quoi. Enfin, tout le monde est fou là-dedans, quoi. Il y a un pouvoir qui fait que.
Il y a aussi la grande distinction dont on aurait pu parler de mille choses, mais de ce qui est le traitement dans la cure européenne et dans la cure américaine. En Europe, la finalité, pour faire simple, c'est de ramener la personne à soi, de la réintégrer, de la reconstituer. Tandis qu'aux États-Unis, y compris la psychanalyse, c'est-à-dire qui se réclame de Freud, c'est de réinsérer la personne dans le tissu social. C'est pas du tout la même chose. En Europe, l'intention est de rendre la personne l'individu à lui-même. Aux États-Unis, c'est de rendre la personne au tout collectif. Donc si vous êtes capable de tenir un motel déguisé en votre mère en empaillant les oiseaux, il n'y a aucun problème. Tant que vous ne dérapez pas, ça va très bien.
Oui, j'espère que vous avez pris beaucoup de notes là, parce qu'on a cité un nombre assez impressionnant d'œuvres, voire de films. Voilà. Moi, je voulais juste peut-être terminer par une citation. J'y ai pensé là, une citation de Michel Jury, en fait, de son personnage dans Le Temps Incertain, qui s'appelle Daniel Dierson, qui est quelqu'un qui va subir justement ce voyage psychique et temporel, qui dit à un moment donné : je préfère être sain dans un univers malade. Que malade dans un univers sain. Voilà, je vous laisse réfléchir à cette citation.
Et ce sera notre mot de conclusion. Merci pour votre attention.